Bonsoir à vous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. Il est 20h30 à Paris, 19h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, le point sur la situation dans le Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis nous irons à Kinshasa où une déclaration du président Félix Tshisekedi est attendue. Au Tchad, le 13e congrès du MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Aziz Mohamed Saleh, actuel ministre des infrastructures et du désenclavement, désigné nouveau secrétaire général. Et puis au Bénin, dernière ligne droite dans le procès du complot contre l'autorité de l'État qui se déroule devant la Criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Direction Kinshasa où la situation reste tendue après les violentes manifestations d'hier, des rassemblements initialement prévus pour protester contre l'offensive des rebelles du M23 sur Goma dans le Nord Kivu et qui se sont finalement transformés en attaques et pillages de certaines ambassades et commerces. Hier soir, le gouverneur de Kinshasa a reporté toutes les marches qui étaient prévues aujourd'hui à une date ultérieure, indiquant qu'il fallait prendre le temps pour qu'elles soient mieux encadrées. Alexandra Bronjon, vous êtes l'envoyée spéciale d'RFI, vous êtes à Kinshasa. Ça, comment s'est déroulée cette journée ?
Oui, en effet, journée relativement calme. On est en attente d'un discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un discours très attendu puisqu'il ne s'est pas encore exprimé depuis l'offensive sur Goma. En attendant, eh bien, la situation était plutôt calme, tendue, mais plutôt calme à Kinshasa. Après les manifestations d'hier, il y a eu une reprise timide des activités pendant la journée, nettement moins de monde que d'habitude dans les rues. Écoles et universités n'ont pas ouvert leurs portes, ainsi que de nombreux grands magasins qui ont eu peur d'ouvrir après les pillages d'hier. Ce matin, plusieurs groupes de jeunes ont tenté de se rassembler autour près de la gare centrale, mais ont été rapidement maîtrisés par la police. Je vous rappelle qu'hier, plusieurs ambassades ont été ciblées lors de ces manifestations et ont essuyé des jets de pierre. Aujourd'hui, police et militaires sont déployés devant certaines chancelleries de la capitale. Et puis, après les États-Unis hier, aujourd'hui, c'est au tour de la Belgique qui a mis en garde ses résidents, leur conseillant de ne pas voyager en raison des tensions sécuritaires.
Alexandra Bronjon, en direct de Kinshasa. J'ajoute que dans un communiqué, le président angolais João Lourenço, médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali, déplore, je cite, l'occupation de la ville de Goma et appelle au retrait immédiat du M23 des territoires illégalement occupés. Il réclame également, je cite, toujours le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais qui, selon lui, sont des conditions nécessaires à la convocation d'un sommet tripartite à Luanda. Fin de citation. On en vient à la situation à Goma, dans l'est du pays. Pierre Firsion, bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
Le calme est revenu dans l'après-midi après quelques échanges de tirs ce matin en périphérie.
Oui, des tirs sporadiques qui ont cessé cet après-midi et ce alors que les éléments du M23 et des troupes rwandaises ont pris position dans la plupart des quartiers de la ville. Les habitants ont profité de cette accalmie pour sortir et tenter de trouver de la nourriture ou pour rechercher des proches disparus. De nombreux blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux. Les cadavres sont, eux, envoyés vers les morgues. La très grande majorité de ces victimes sont des civils, selon le CICR.
Et dans une interview à l'AFP, Vincent Karega, l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs, estime que, je cite, « Goma n'est pas une fin en soi ».
Et la progression du M23 va continuer vers le sud Kivu, a-t-il ajouté, à moins que des négociations ne soient engagées avec Kinshasa. Ces propos ne reflètent pas la position officielle du gouvernement, a réagi à RFI Alain Mukuralinda et le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais de préciser « La prise de Goma est une affaire congolo-congolaise et qu'il n'a pas à commenter ». Fin de citation. Dans ce contexte, le gouverneur du sud Kivu annonce avoir renforcé le dispositif sécuritaire dans sa capitale Bukavu et interdit toute navigation sur le lac Kivu.
Alors le M23 et l'armée rwandaise, on l'a dit, sont présents ce mercredi dans la plupart des quartiers de Goma et ses faubourgs. À la mi-journée, plusieurs centaines de Roumains, instructeurs auprès des forces armées et alliés selon Kinshasa ou mercenaires selon Kigali, ont traversé la frontière vers la ville rwandaise de Gisenyi pour être ensuite évacués vers la Roumanie. Lucie Mouillot.
En civil et sans armes, près de 300 hommes de nationalité roumaine ont franchi à pied la grande barrière en formant plusieurs files indiennes selon les instructions des agents de sécurité rwandais. Après une fouille méthodique et un passage à l'immigration, le groupe est monté dans un convoi de bus pour prendre la route de l'aéroport international de Kigali. Dans un message posté sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndungirehe, qualifie ces hommes de mercenaires recrutés par Kinshasa pour combattre auprès des FARDC Kabylie et de leurs alliés. De leur côté, les autorités congolaises reconnaissent employés des sociétés militaires privées, mais seulement pour des fonctions d'instructeurs auprès de leur armée. Le porte-parole adjoint du gouvernement de Kigali, Alain Mukura Linda, affirme que le groupe s'est rendu dans une base de la MONUSCO. Le gouvernement roumain a ensuite discuté avec le Rwanda de leur évacuation par la Grande Barrière, seul point de passage possible pour sortir de Goma. Lucie Mouillot, Guy Seni, RFI.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 20h35, à N'Djamena, où s'est tenu le 13e congrès du mouvement patriotique du Salut, le MPS. Il s'est tenu au Palais du 15, le Palais des Arts et de la Culture. Mamad Idriss Déby, jusque-là président d'honneur, est désigné aujourd'hui président national du parti au pouvoir. Et puis un nouveau secrétaire général a été choisi aujourd'hui pour le MPS, Nadia Ben Mahfoud.
Aziz Mahamat Saleh est le nouveau secrétaire général du MPS. Il est l'actuel ministre des Infrastructures et du Désenclavement, mais aussi porte-parole de la commission en charge de la gestion du départ des militaires français. Il remplace donc Mahamat Zembada, figure historique du parti, écarté pour les élections législatives du 29 décembre, lorsque l'Agence nationale de gestion des élections avait rejeté sa candidature. L'autre information, c'est la désignation à l'unanimité par la direction du parti de Mahamat Idriss Déby comme président national du MPS. Il était jusque-là président d'honneur. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé avoir choisi Aziz Mahamat Saleh comme secrétaire général. L'implication du président au sein du MPS est critiquée par une partie de l'opposition qui évoque l'article 77 de la Constitution. Celui-ci interdit au chef de l'État d'exercer des fonctions au sein d'un parti politique. Par ailleurs, le président tchadien a salué Succès Masra, opposant et président des transformateurs, pour la main qui lui a tendue, se disant prêt à travailler avec lui. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Dans l'actualité, également le Bénin avec dernière ligne droite dans le procès du complot contre l'autorité de l'État. Un procès qui se déroule devant la CRIET, la cour de répression. Après avoir entendu les derniers témoins et lu des procès-verbaux d'audition, l'avocat de l'État béninois a plaidé à la reprise ce mercredi. Il réclame à Oswald Omeki, Olivier Boko et à son beau-frère plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour les préjudices subis par l'État. Et l'audience a été suspendue à la mi-journée. Elle reprendra demain. Compte rendu d'audience, Jean-Luc Aplogan.
Maître Kakpo Assogba, qui défend l'État, demande à la cour de condamner Olivier Boko, son beau-frère, Roch Nyeri, en fuite, et l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, à payer 77 milliards de francs CFA de dommages et d'intérêts. Il réclame également la saisie de tous leurs biens. Murmure dans la salle à l'énoncé de ces chiffres, surtout dans les bancs des proches des prévenus. Olivier Boko et Oswald Omeki l'ont écouté sans aucune réaction. Dans sa démonstration, l'avocat affirme que seul M. Olivier Boko peut acheter le patron de la garde présidentielle et mobiliser cet argent. Il explique que Oswald Omeki n'a pas ces moyens-là. L'avocat décrit le beau-frère de Olivier Boko comme le catalyseur. C'est lui que l'ancien ministre des Sports a désigné comme celui qui a mobilisé les fonds pour des activités politiques et non pour un coup d'État. Les accusés ne se sont pas exprimés, ils gardent le silence. La cour a lu une partie de leurs auditions. Olivier Boko a déclaré devant les magistrats instructeurs, je ne peux pas faire un coup d'État à mon régime. Talon président, c'est Boko président. Je ne suis ni informé ni mêlé à un coup d'État. Le réquisitoire du ministère public est prévu pour demain, jeudi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
En bref, dans l'actualité africaine, le Soudan où 7 personnes ont été tuées, 11 autres blessées dans le bombardement d'un camp de réfugiés près d'El Fasher au Darfour Nord. Bombardement par les FSR, les paramilitaires des forces de soutien rapide. L'attaque a visé le camp d'Abouchou qui est un marché voisin. Déjà vendredi, une frappe de drone avait touché l'unique hôpital en fonction, faisant au moins 70 victimes. Et puis 2 personnes accusées d'avoir torturé et extorqué plus de 250 migrants en Libye ont été incarcérés. C'est ce qu'annonçait un communiqué du procureur général de Tripoli. Aujourd'hui, les victimes étaient retenues dans un camp sous contrôle des forces de Khalifa Haftar où elles subissaient des sévices. Le football à présent sur RFI, une soirée Ligue des Champions européenne. Le PSG se déplace à Stuttgart. Cédric d'Oliveira est sur place et Thomas Saint-Léger, lui, va suivre la rencontre opposant Brest au Real Madrid de Kylian Mbappé et en chef d'orchestre de cette soirée, Sofiane Amazian sur la radio du Monde. Il est 20h40 ici à Paris.